Jésus aimait enseigner en paraboles, par des paraboles. Ce sont des histoires qui sont tirées du quotidien, mais qui veulent exprimer, enseigner une vérité spirituelle. Et ces histoires demeurent d'une force intacte aujourd'hui. Alors, il y a des fois un ou l'autre aspect qui n'est plus de notre culture, mais on arrive quand même très bien à comprendre ces images tirées du quotidien. Et ça nous apprend d'ailleurs même des choses sur la façon dont vivaient les personnes de cette époque. Les paraboles ont l'apparence de la simplicité. C'est vrai qu'il n'y a pas de... Disons, dans ce que Jésus dit, ça paraît, voilà, on écoute une histoire, l'histoire n'est pas compliquée, mais des fois, c'est l'interprétation. Quelle leçon faut-il tirer de cette histoire ? Quels éléments je peux identifier avec telle ou telle personne, avec des éléments peut-être de ma vie ? Comment appliquer ça à ma vie ? Certaines paraboles, derrière leur simplicité apparente, se révèlent d'une profondeur insoupçonnée, voire d'une certaine complexité quand même, quand on veut creuser et dire « mais c'est quoi le sens finalement ?» Les évangiles ne cachent pas d'ailleurs la perplexité qu'elles pouvaient produire, ces paraboles, y compris chez les disciples de Jésus. Et on va en voir un exemple ce matin. Donc on va prendre le texte dans Luc chapitre 12, versets 35 à 41, et puis ensuite on lira les versets 41 à 48. « Soyez prêts à agir, les manches retroussées et vos lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent leur maître au moment où il va revenir d'un mariage, afin de lui ouvrir la porte dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera éveillés. Je vous le déclare, c'est la vérité. Il retroussera ses manches, les fera prendre place à table et viendra les servir. S'il revient à minuit ou même plus tard encore et qu'il les trouve éveillés, heureux sont-ils. Comprenez bien ceci, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il ne le laisserait pas pénétrer dans la maison. Tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne pensez pas. » Alors Pierre demanda, « Seigneur, dis-tu cette parabole pour nous seulement ou bien pour tout le monde ?» Et je vais m'arrêter là dans un premier temps. Je m'arrête quelques instants ici avant de lire la suite. Ce texte, donc cette parabole que Jésus raconte et cette question de Pierre qui est très intéressante. « Seigneur, dis-tu cette parabole pour nous seulement ?» ou bien pour tout le monde. Voyez la perplexité de Pierre. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce que tu nous dis ? Tu t'adresses à nous, le cercle des disciples ? Ou c'est un message universel ? Il était perplexe. Pour qui Jésus parle-t-il ? On peut imaginer que Pierre pose la question parce que Jésus avait l'habitude d'enseigner de façon publique à qui voulait bien l'entendre. Il prêchait aux foules. Peut-être que les disciples se demandaient aussi ce qu'ils allaient faire plus tard de ces paraboles. Le maître est en train de nous enseigner, nous raconter plein d'histoires, mais qu'est-ce qu'on va en faire si on ne comprend pas vraiment le sens et ni à qui elle s'adresse précisément ? Ce qu'ils entendent de Jésus, doivent-ils le garder pour eux ou le transmettre plus loin ? Est-ce que ça fait partie de leur formation de disciples ou est-ce qu'il s'agit d'un message universel ? Et honnêtement, on peut encore se poser la question de Pierre aujourd'hui. Alors, ce texte nous parle de serviteurs, des serviteurs et d'un maître. Et alors, on aime bien dire, la difficulté est là, c'est que désignent en fait les serviteurs ? Le maître, on a compris que c'était Dieu. Ça, je pense que c'est assez clair, Dieu est le maître de toutes choses. Et dans la parabole, ici, tirée du quotidien, il est représenté par un maître humain. Mais ça désigne Dieu. Par contre, les serviteurs, Qui sont les serviteurs? Est-ce que ce sont ceux qui ont décidé de dépendre de Dieu, de lui obéir et sont donc ainsi appelés serviteurs puisqu'ils servent le maître? Ou est-ce que dans la parabole, il faut y voir tous les êtres humains parce que Dieu attend quelque chose de chacun d'entre nous, de tous les êtres humains, de toutes ces créatures en tant que créateur? Pas évident de trancher. Alors Pierre pose cette question et Jésus va répondre par une autre parabole. Alors est-ce que la parabole contient la réponse? On va voir. Une parabole qui prolonge la précédente, qui redit certains aspects différemment en mettant l'accent ailleurs. Et cela nous dit d'ailleurs sans doute quelque chose de la façon dont Jésus enseignait. Il utilisait des paraboles, il reprenait des éléments peut-être d'une parabole encore dans une autre, il adaptait son message à l'auditoire auquel il s'adressait en mettant l'accent sur tel ou tel aspect de l'histoire. Les paraboles n'étaient probablement pas des histoires figées, mais des métaphores vivantes, capable de s'adapter aussi à différentes circonstances. Et donc on va reprendre maintenant la suite du texte, après cette fameuse question de Pierre. « Seigneur, dis-tu cette parabole pour nous seulement ou bien pour tout le monde ?» Le Seigneur répondit « Qui est donc le serviteur digne de confiance et intelligent ? C'est celui que son maître chargera de veiller sur la maison » et de donner aux autres serviteurs leur part de nourriture au moment voulu. Heureux ce serviteur si le maître, à son retour chez lui, le trouve occupé à ce travail. Je vous le déclare, c'est la vérité. Le maître lui confiera la charge de tous ses biens. Mais si le serviteur se dit « Mon maître tarde à revenir », s'il se met à battre les autres serviteurs et les servantes, s'il mange, boit et s'enivre, alors le maître reviendra un jour où le serviteur ne l'attend pas et à une heure qu'il ne connaît pas. Il chassera le serviteur et lui fera partager le sort des gens indignes de confiance. Le serviteur qui sait ce que veut son maître, mais qui n'a rien préparé ou qui n'a pas agi selon la volonté de son maître, recevra de nombreux coups. En revanche, le serviteur qui ne sait pas ce que veut son maître et agit de telle façon qu'il mérite d'être puni, recevra peu de coups. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a confié beaucoup, on demandera encore plus. Alors à la question posée par Pierre, Jésus répond par une autre parabole avec des points communs. Il y est toujours question de serviteur à qui un maître a confié la gestion de sa maison. Et il y a pratiquement la même béatitude qu'on trouve dans une parabole et l'autre. Heureux ce serviteur si le maître, à son retour chez lui, le trouve occupé à ce travail, le travail que le maître lui avait confié. Il y a aussi donc le même appel à la vigilance, à rester éveillé, car nul ne sait le jour où le maître reviendra. Et Jésus ajoute encore un avertissement pour les mauvais serviteurs, ceux qui n'effectuent pas leur travail, et pire, qui abusent de leur autorité par la violence contre les autres serviteurs et qui profitent de leur position. Ceux-là ne seront pas heureux au retour du maître. Jésus ajoute encore une précision importante, en lien avec la question de Pierre. Le traitement réservé aux mauvais serviteurs ne sera pas le même si ces derniers connaissent bien le maître et ce qu'il veut, ou si ce n'est pas le cas. Le traitement sera différencié avec une rétribution, une punition, plus ou moins sévère, en fonction de la connaissance que chacun avait du maître et de sa volonté. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a confié beaucoup, on demandera encore plus. Et vous remarquerez que cette dernière formule concerne ceux à qui l'on a beaucoup donné. Autrement dit, ceux qui connaissent bien le maître et sa volonté. Jésus ici répond à Pierre, qui a lui beaucoup reçu en tant que disciple, puisque Jésus l'a appelé à devenir son disciple, à le suivre. Ceux qui ont moins reçu, le maître s'en occupera de façon juste et équitable, c'est son affaire. L'enseignement de Jésus est-il donc pour ses disciples seulement ou pour tout le monde ? C'est la question de Pierre. Je pense pouvoir dire que c'est pour tout le monde. Mais tout le monde n'a pas à l'entendre de la même façon en fonction de ce que nous avons connu ou vécu. Quelles leçons alors pouvons-nous tirer de cette double parabole ? Et je vous propose trois leçons. Alors, première leçon, ça peut s'afficher, c'est que dans cette parabole nous dit en quelque sorte que tout être humain est au service de Dieu dans le sens, pas dans le sens volontaire, que tout être humain a décidé de suivre Dieu et de le servir, mais dans le sens que Dieu attend quelque chose de tous les êtres humains, car il est le maître, et Dieu est le maître, qu'on en soit conscient ou non. Dieu attend de nous, de toutes ces créatures, quelque chose, qu'on en soit conscient ou non. Je pense pouvoir donc dire que dans la parabole, dans cette parabole, ce n'est pas dire qu'à chaque fois qu'on trouve le mot serviteur, petite parenthèse, dans le Nouveau Testament, ça désignera forcément toute l'humanité. Je pense que par exemple, dans une parole comme Jésus qui dit par exemple « Nul ne peut servir deux maîtres à la fois », là il est question de servir et donc de serviteur dans un autre sens, un sens plus fort, d'une décision consciente, d'un engagement à servir Dieu. Mais là, dans cette parabole, on peut y voir tous les êtres humains dans le sens que Dieu est le maître de tous les êtres humains. Le fait de dire que Dieu est le maître dans cette parabole est une façon aussi de dire qu'il est souverain. Les uns le savent et ils connaissent ce que leur maître veut. Les autres ne savent pas ce que veut le maître. Ils n'en sont pas moins appelés serviteurs dans cette parabole. Et s'ils agissent mal, ils devront en rendre compte. C'est un enseignement général de Jésus et de la Bible dans son ensemble. Tout être humain est créature de Dieu, faite à son image, et tout être humain aura des comptes à rendre à son Créateur. Alors dit comme ça, je sais que ça peut être accusateur, ça peut sembler culpabilisant, mais on peut le dire aussi autrement. Dieu attend quelque chose de nous. Comme un maître attend quelque chose de toutes ses créatures, comme le Créateur qui attend quelque chose de toutes ses créatures. Il sait reconnaître nos bons services, même si on ne le connaît pas vraiment comme maître, et cela on le retire plutôt d'ailleurs de la première parabole, la deuxième étant un prolongement. Ne peut-on pas y voir aussi dans cette parabole une invitation à discerner ce qui se fait de bien autour de nous, au-delà même du cercle des seuls croyants ? Tout être humain est serviteur de Dieu dans cette parabole, au moins en tout cas dans la deuxième parabole, même sans le savoir, il peut accomplir de bonnes et belles choses. Sachons saluer en tout cas les initiatives positives, les combats utiles, les innovations justes et bonnes, et même sachons nous y associer. C'était une première leçon que je vous proposais de tirer de cette double parabole. La deuxième est que ce n'est pas la connaissance qui fait de nous de bons serviteurs, mais c'est ce que nous faisons. En tant que croyants, veillons à la façon dont nous mettons en pratique ce que nous avons reçu. C'est une autre leçon de cette parabole. Vous savez que Jésus, dans une autre parabole d'ailleurs, celle du fou sur le sable qui construit sa maison sur du sable et puis le sage qui construit sa maison sur le roc, Jésus, lorsqu'il explique cette parabole, il ne dit pas que le fou est celui qui ne connaît pas l'enseignement de Jésus. Le fou est celui qui écoute cet enseignement et ne le met pas en pratique. Et le sage, au contraire, entend l'enseignement, mais le met en pratique. Et bâtir sa maison sur le roc, c'est bâtir sa vie sur la mise en pratique, l'obéissance à Dieu. Ce qui distingue les bons serviteurs des mauvais serviteurs, ce n'est pas leur connaissance du maître et de sa volonté, c'est ce qu'ils font en tant que serviteurs. Et dans la deuxième parabole, il y a des mauvais serviteurs aussi chez ceux qui connaissent bien leur maître. Et il est dit qu'ils seront jugés sévèrement. Il ne suffit pas d'être chrétien pour être un bon serviteur de Dieu. Il ne suffit pas de croire en Dieu, de prier et de lire la Bible, d'aller au culte le dimanche, voire de témoigner de sa foi pour être un bon serviteur. On sait d'ailleurs quels dégâts ont pu faire et font encore quelques « bons chrétiens », entre guillemets, bien propres sur eux le dimanche, mais dont la vie quotidienne ou au sein de leur famille contredit de façon criante la foi qu'ils professent, qu'ils prient et qu'ils chantent. Il n'y a pas de pire contre-témoignage. La parabole nous dit, elle, qu'il ne suffit pas de connaître. Les bons serviteurs se retroussent les manches. C'était la traduction de la Nouvelle Français Courant. C'est une formule qui dit littéralement en grec « mettre la ceinture aux reins » et qui reprend probablement une expression de l'Ancien Testament lors de l'Exode notamment. On la trouve cette expression, le peuple devait être prêt à partir, il devait avoir les reins saints, saints de la ceinture, c'est-à-dire être habillé en quelque sorte pour pouvoir partir très vite. Donc littéralement, c'était mettre la ceinture aux reins, et la Nouvelle Français Courant traduit se retrousser les manches, parce qu'en réalité, il s'agit donc de se mettre en tenue de travail, être dans l'activité, d'attacher sa ceinture pour ne pas être gêné par son vêtement quand on travaille. Et en français, ça convient donc très bien de traduire par se retrousser les manches, parce que cette expression signifie justement se mettre en route, en activité, se mettre au travail. Le bon serviteur est celui qui se retrousse les manches, qui se met au travail, au service des autres. C'est celui qui démontre qu'il aime Dieu en aimant son prochain comme lui-même. Et le serviteur fidèle est celui qui le fait avec persévérance, sans se lasser. Ce n'est pas la connaissance qui fait de nous de bons serviteurs, c'est ce que nous en faisons de cette connaissance. Comment nous l'appliquons ? Comment nous la mettons en pratique? Et troisième leçon, le Seigneur honore toujours ses serviteurs fidèles. Il ne faut pas oublier la première parabole qui porte un regard plus optimiste aussi sur l'histoire racontée, puisqu'elle s'intéresse seulement, la première parabole, aux serviteurs fidèles et persévérants, qui savent attendre leur maître, même s'il tarde un peu, et qui travaillent jusqu'à son retour. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera éveillé. Puis il y a cette image incroyable dans la suite du verset aussi à propos du maître. Je vous le déclare, c'est la vérité. Il retroussera ses manches, les fera prendre place à table et viendra les servir. À la fin de la parabole, c'est le maître qui prend place, qui prend la place de ses serviteurs, et les serviteurs, eux, se retrouvent à la table du maître. Le maître honore ses serviteurs fidèles. Le Seigneur sait reconnaître la fidélité de ses serviteurs. Il sait les honorer pour cela. Le bien que nous faisons autour de nous, l'amour que nous témoignons à notre prochain, les combats que nous menons pour la justice, la paix, la réconciliation, tout cela ne passe pas inaperçu aux yeux de Dieu. Même si les fruits peuvent sembler limités, même si ça se voit peu, Dieu le voit et il y prend plaisir. Et un jour, il nous honorera. Comme le dit le maître d'une autre parabole de Jésus, dans la parabole des talents, qui nous parle aussi du serviteur et des serviteurs et du maître, « C'est bon, bien et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Les enseignements de Jésus concernent tout le monde. Mais chacun est appelé à les recevoir pour lui-même, de façon personnelle. Ne faisons pas de cette parabole une idée pour parler à notre frère ou notre sœur à propos de cette parabole, mais prenons-la pour nous-mêmes, de façon personnelle. Recevoir l'enseignement de Jésus, ce n'est pas tellement accumuler de nouvelles connaissances, c'est apprendre à mieux le connaître lui et sa volonté, et apprendre à mieux la mettre en pratique. Apprendre à devenir un meilleur serviteur et un meilleur disciple, c'est apprendre à mettre en pratique ce que nous savons déjà. Alors des fois, vous savez, on a cette petite expression, il faut que ça descende de la tête au cœur, et puis du cœur aux mains, parce qu'il ne suffit pas d'avoir de bons sentiments, de bonnes intentions aussi. car le Seigneur attend bel et bien quelque chose de nous. Et ce sera quelque chose peut-être de différent pour chacun, ce ne sera pas la même chose. Il nous connaît, il nous voit, il a fait de nous ce que nous sommes, il nous a accompagnés dans tout notre parcours de vie. Il sait reconnaître ce que nous faisons pour lui et pour notre prochain. Et il honore toujours ses serviteurs fidèles. Amen.